session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 8 juillet 93 à Saint-Jodard.
Excusez le retard, mais vous avez... c'est la faute de trois gros camions, n'est-ce pas? Que peut dire le philosophe des noms de Dieu? Dire que Dieu est amour subsistant, est-ce un nom de Dieu? Quand je regarde les traditions religieuses, la tradition judéo-chrétienne, je vois qu'il y a des noms de Dieu. Et dans la somme théologique de saint Thomas, il y a une question sur les noms de Dieu. Bien, le philosophe, lui, ne peut pas découvrir les noms de Dieu. Il peut recevoir des traditions judéo-chrétiennes certains noms de Dieu. Le Tout-Puissant, le Très-Haut. Il les reçoit et il peut justifier, essayer de comprendre la signification de ces noms. Et très souvent, ces noms sont liés à un effet. Vous voyez, faites l'analogie avec le pèlerinage. Il y a l'apparition de la Sainte Vierge. Que dit le philosophe sur une apparition de la Sainte Vierge? Ordinairement, c'est les théologiens qui s'occupent de ça. Un philosophe pourrait s'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène particulier de quelqu'un qui dit qu'il a vu la Vierge Marie? Ou c'est un fou, une folle? Ou il y a quelque chose, soucoupe volante? Quelle différence entre les soucoupes volantes et les apparitions de Marie? Pour le philosophe, hein, pour le philosophe. Je me mets bien pour le philosophe. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a touché? Catherine Lavoie dit qu'elle a touché. Carabandal dit qu'ils ont touché. C'est curieux, ça. C'est intéressant, tu vois. On pourrait faire un cours philosophique sur les apparitions de Marie, si vous voulez. On inviterait certains spécialistes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que philosophiquement. Vous voyez, c'est en raison d'un passage et d'un effet un peu extraordinaire. Alors à partir de là, on nomme Dieu. Le philosophe ne fait pas ça, il ne peut pas. Mais il peut recevoir ses noms de la tradition religieuse. Quand l'amour subsistant, ce n'est pas un nom de Dieu, c'est la réalité. De voir qu'en Dieu, l'amour est son être. L'amour premier, premier amour, l'amour subsistant ne peut être que l'être premier, Dieu. Alors c'est les manières d'exister de Dieu qui ne sont pas les noms de Dieu. Les noms de Dieu sont toujours liés à un effet sur la créature. Tandis qu'au contraire, les manières d'exister de Dieu, c'est la contemplation de Dieu. Alors, peut-on dire que le nerf de la saisie, de la nécessité de poser un être premier, peut se ramener au raisonnement suivant? Très bien. Tout ce que je constate existant en acte connaît en même temps une limite, car il n'était pas. De ce fait, rien de ce que je constate ne peut être premier dans l'ordre de l'être, puisqu'il dépend d'un autre pour être. Puisque cet autre connaît lui-même la potentialité, je dois poser un être premier existant par soi. À partir de cet axe, je peux regarder les différents actes de l'amour, de la connaissance, du vrai, de l'exister subsistant, et poser un être premier, amour, connaissance parfaite, exister par soi. Oui, je suis d'accord, mais voyez, hein, ne prenez pas ça comme un raisonnement. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est une démonstration a posteriori. Tandis que vous commencez tout ce que c'est un raisonnement qui est une affirmation. Vous partez d'une expérience. Vous ne découvrez pas un Dieu qui est pour tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. Je découvre un Dieu qui est mon Dieu. Celui de mon exister actuel. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est pour ça que je pars du « je suis ». Là, on partirait de « ceci est ». Je peux le faire. Mais j'ai dit, exprès, que toute la métaphysique, c'était partir de « ceci est ». Je suis. Dans le je suis, le ceci est présent. Mais le je suis qui assume ceci est, le je suis a une force existentielle ou existentielle unique. Autrement dit, je suis en face d'une expérience unique. Et j'ai bien insisté ce matin, exprès, que je pars d'une expérience unique, l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est ce qu'il y a de plus concret en moi, comme expérience. Ça unit l'expérience externe, l'ami. Ça unit l'expérience interne. Et c'est ça, je crois, qu'il faut à tout prix comprendre. La scolastique décadente a souligné qu'il fallait partir d'une expérience externe. Oui, très bien. Mais, quand je suis attentif, aux voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Je vois Saint Anselme, je vois Thomas d'Aquin. J'ai souligné Thomas d'Aquin, position critique. La position critique, elle met en pleine lumière ceci est, le plus indéterminé possible par rapport au subjectif. On dit que tout, vous voyez, position critique, tout ce que je constate, c'est critique ça, ce que je constate, c'est déjà le vécu, c'est pas je constate. Oui, c'était très important de bien comprendre qu'il me faut une expérience double, interne et externe, pour découvrir l'existence. Voyez, dans le livre sur Jean-Paul Ier, sur Jean-Paul II, on l'interroge, on lui dit, qu'est-ce que vous aimez plus, les expériences internes ou les expériences externes qui qui conduisent à Dieu. Et le pape répond, les expériences internes. Première fois que j'ai lu ça, je vais dire, ah là là, pas juste, pas juste. Il est encore trop dans la phénoménologie. On a le droit de critiquer le pape comme philosophe. On a le droit. Parce que il est philosophe. Et le pape il ne transforme pas sa philosophie. C'est sûr. C'est pas parce qu'il est pape qu'il est réaliste dans sa philosophie. Il est réaliste dans sa philosophie parce qu'il aime Thomas d'Aquin. Et ce n'est pas une condition sine qua non pour être pape, d'aimer Thomas d'Aquin. C'est pas encore dit dans un concile. Et on est loin de le dire. Alors, j'ai dit ça, puis après j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai demandé une fois au Saint-Père, très Saint-Père, je voudrais comprendre parfaitement votre pensée. Est-ce qu'étant formé par la phénoménologie, vous visez une anthropologie? Mais vous savez qu'il y a au-delà de l'anthropologie une métaphysique. Votre anthropologie est ouverte à une philosophie première, une métaphysique. Alors, il y a eu un silence. C'est toujours imposant quand il est face du pape, un silence. Parce qu'il lui faisait passer un examen. Un silence. Il a répondu, c'était très touchant. Merci Père de me dire cela. Alors, j'ai compris, vous voyez. De l'homme, il passe à l'être. De l'être, il passe à l'homme. Et que quand il s'agit de démontrer l'essence de Dieu, étant donné la difficulté pour nous, de ne pas tomber dans un petit schème logique. Ce qu'a fait la scolastique décadente, elle a donné une démonstration logique qui ne prouve rien. On est en face d'une démonstration unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Donc elle fait sauter la logique. La métaphysique fait sauter la logique. La logique se fond sur la métaphysique, mais la métaphysique est au-delà. Pourquoi? Parce que la métaphysique, elle touche l'être. Et elle est donc une démarche toujours analogique. Alors que la logique revient toujours à l'univoque. C'est l'universel qui est le noyau logique. Tandis que le noyau métaphysique, c'est l'être analogique. C'est le bien analogique. C'est l'amour lié au bien, ne faisant qu'un avec le bien analogique. Alors, c'est pour ça que c'est très bien cette question. Ça vous oblige de préciser pour que vous voyez mieux. Je pars du je suis. Le je suis est une expérience interne. Et une expérience externe. Je suis, je me touche. Ça fait partie de moi, ça. Mon corps fait partie de moi. Et je suis mon corps. Et mon corps fait partie substantiellement de mon je suis. Je ne peux pas dire mon je suis, c'est seulement mon âme. Mon âme pensante. Non, c'est pas seulement mon âme pensante. donc, dans ce point de départ, il y a l'expérience interne et l'expérience externe qui rejoignent l'être réel du je suis. Ce je suis n'est pas coupé de toute analyse du ceci est. Et ceci est. De sorte que quand le Saint-Père dit « j'aime mieux l'expérience interne », que veut dire le Saint-Père ? Faisons attention, la scolastique décadente a tellement insisté sur l'objectivité qu'elle ne voit plus que l'expérience externe. Et elle oublie le « je suis ». Et c'est vrai. Et c'est ça, je crois, qu'il y a de tout à fait caractéristique à cette découverte de l'existence de Dieu. Vous voyez, je la fais au plus intime de moi-même. C'est ça qui est merveilleux. Si je réfléchis à moi-même, je suis tout à fait d'accord que l'expérience que j'ai de ce que je suis est une expérience de la réalité qui est plus forte que lorsque je vois quelqu'un d'autre. Même si je l'aime beaucoup, c'est quand même un autre. Donc le je suis a quelque chose d'unique dans ma connaissance de l'être. Je connais l'être de l'intérieur. C'est quand même extraordinaire. C'est mon être. C'est mon exister. Et en même temps, c'est l'exister pour mon voisin. J'existe pour mon voisin. Il me touche mon corps, ôte-toi de là que je m'y mette. Hein. Donc je le gêne, c'est sûr. Si j'étais pas là, il prendrait ma place. Parce que j'ai une bonne place. Vous voyez, alors, on voit très bien comment je suis pour moi et je suis pour les autres. Dans le je suis, il y a les deux. Ceci est, je suis. C'est ça qui est tellement important à comprendre. Donc je pars d'une expérience de l'être qui est à la fois interne et externe. Au-delà de l'intériorité et de l'extériorité. Parce que l'être est analogique. Il est au-dessus. Alors, à partir de là, je fais l'expérience de ce qu'il y a de plus acte en moi. Qu'est-ce qui est le plus acte en moi ? Je ne peux pas parler encore de l'adoration, comprenez bien, au plan philosophique. Je n'ai pas découvert encore l'existence de Dieu. Donc je ne peux regarder l'adoration que selon les traditions. Mon expérience n'est pas une adoration de Dieu. C'est répétition de principe. En dehors de l'adoration et de la contemplation de Dieu, qu'est-ce qui est le plus élevé en moi ? Mais c'est mon amour d'amitié. C'est ce qui est ultime. Alors, je touche mon exister dans mon amour d'amitié. Et inséparable de mon amour d'amitié. C'est pour ça que cette voix, j'ai pas eu le temps ce matin parce que je voulais pas dépasser l'heure, mais cette première voix peut se doubler. C'est peut-être cela qui vous fera le mieux comprendre. Et ce sera la réponse à ici. Elle peut se doubler par rapport au bien. Mon ami, je saisis dans l'amour d'amitié. J'ai l'expérience d'un ami. Mais l'expérience d'un ami, c'est une expérience externe. Avoir l'expérience interne de mon ami, c'est quand mon ami est absent. Quand mon ami est absent, je le porte en moi et je pleure parce qu'il est absent. Et ce n'est pas les pleurs qui vont me faire découvrir Dieu. Ce n'est pas l'absence qui va me faire découvrir Dieu. C'est mon ami présent Mais c'est mon ami. Je ne reste pas à l'amour. S'il reste à l'amour, je resterai dans l'intentionnalité. Je touche l'ami. Et l'ami, c'est mon bien. Et donc, cette première voie, c'est la voie de l'amour lié au bien. Et c'est le bien. Quel est mon bien? C'est l'ami. Or, ce bien m'est donné comme quelque chose de parfait et quelque chose de limité. Et donc, l'ami est pour moi, comprenez bien, un appel vers le bien absolu. C'est le visage, pour moi, du bien absolu. C'est quelque chose de très extraordinaire, ça. Et c'est là où je vérifie si mon ami est vraiment mon bien. Quand mon ami me conduit au bien absolu, il est mon bien. Quand mon ami est un mur qui m'arrête et qui me replie sur la jouissance que j'ai de lui, ce n'est plus vraiment mon ami. Ce n'est plus vraiment mon bien. Je l'accapare. Et il m'accapare. Et nous restons dans l'immanence de la jouissance. Et donc d'un amour plomant, sensible, romantique, imaginaire. Ce n'est pas le véritable amour spirituel et humain qui touche la vie. Alors c'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre, vous voyez. Et je crois que ça, c'est capital. Autrement, très facilement, cette voie sur l'amour pourrait se ramener à une nostalgie. C'est la nostalgie d'amour d'amitié. Eh bien, la nostalgie d'amour d'amitié ne vous fait pas découvrir l'ami. Et ça, c'est très très important, comprenez. Ne vous fait pas découvrir Dieu, et ni l'ami. Alors, maintenant que j'ai dit ça, vous allez comprendre. Tout ce que je constate existant en acte connaît en même temps une limite. Car il n'était pas. C'est juste ce qu'il dit là. C'est très juste. Mais faisons attention. Ce n'est pas cela qui est la preuve. Cela, c'est la critique de la preuve. Ça remonte sur quoi repose la preuve. Elle repose en effet sur l'expérience que je fais de quelque chose d'absolu. Et ce quelque chose d'absolu est absolu pour moi, et dans son être, il est limité. Et parce qu'il est quelque chose d'absolu pour moi, et que dans son être il est limité, je peux à ce moment-là faire appel au principe de finalité. Le principe de finalité, alors lui, je peux l'exposer objectivement. Le principe de finalité, c'est tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. L'amour limité dépend d'un bien illimité. Et donc d'un ami qui est absolu. C'est un bien illimité qu'on appelle Dieu. Donc je me sers de ce principe de finalité que j'ai découvert en métaphysique. Alors je vous le montre à quel endroit. C'est important de vous montrer que j'ai découvert ce principe. Vous allez le découvrir dans la mesure où vous ferez un peu de métaphysique. Bon. J'ai dit que l'analyse du ceci est me fait découvrir la substance. L'ousia, J'aime mieux dire ça en grec. Il fait découvrir l'être en acte. L'être en acte, c'est energeia et entelekeia. C'est du grec. C'est très beau, vous voyez. Je comprends maintenant pourquoi il y a energeia et entelekeia. L'expérience interne, l'expérience externe. L'être en acte, energeia. Et l'être en acte, ça, c'est l'être en acte, objectif, c'est l'ami. Or, l'être en acte, se donne à moi selon cinq modalités. Là, je suis dans l'analyse métaphysique. Hein. L'être en acte, l'essai, l'être en acte. Donc l'essai, c'est-à-dire actus essendi. Ceci, c'est le tome d'Aquin. L'être en acte, c'est l'essai actus essendi. C'est le bien, c'est le vrai ou la vérité, c'est les opérations vitales, c'est le mouvement physique. Il y a cinq modalités d'être en acte. Par le fait même, puisque chaque fois que je saisis l'être en acte, je saisis l'être en puissance, il y a donc cinq modalités de l'être en puissance, c'est-à-dire qu'il y a cinq limites de l'être. Cinq limites. La limite de l'être au niveau de la substance, au niveau de son essence. La limite de l'être au niveau du bien. La limite de l'être au niveau du vrai. La limite de l'être au niveau de l'opération vitale, la limite de l'être au niveau du mouvement. Et par le fait même, je vois qu'il y a cinq modalités du principe de finalité. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Cela se montre, se réalise selon ces cinq modalités. Cette modalité du bien. Le bien, je le saisis à travers l'amour. C'est en aimant que je découvre le bien. Il faut aimer quelqu'un pour dire que cette personne est bonne. Si vous ne l'aimez pas, vous direz jamais qu'elle est bonne. Vous direz, on dit qu'elle est bonne. Oui, on dit. Mais je ne sais pas qu'elle est bonne. C'est en l'aimant que je sais qu'elle est bonne. Et en l'aimant, sachant qu'elle est bonne, quelqu'un me dira, oh non, pff, très sale caractère. Oui, pour vous, mais pas pour moi. Ah, il y a des jours où il est bon caractère. Oui. Quand on aime quelqu'un, on met en lumière sa bonté. C'est extraordinaire. Parce que je l'aime grâce à sa bonté. Alors il y a le lien entre le bien et l'amour. Et c'est ça qui est si fort dans l'amour d'amitié. C'est qu'il y a l'amour et il y a l'ami. Et si je partais uniquement d'amour, je ne pourrais pas. Mais je pars de l'amour lié à l'ami. Alors à ce moment-là, je peux m'éclairer cette expérience si extraordinaire de l'amour d'amitié, si merveilleuse, je l'éclaire par ce principe de finalité. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Toute potentialité dépend de l'acte. Ce qui est en puissance n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. Tout ce qui est en puissance est toujours second. N'est pas premier. Donc, il est radicalement dépendant. Je peux dire, tout amour provient d'un bien. L'amour d'amitié qui est en moi provient d'un bien qui est l'ami. Et c'est pour ça que quand l'ami meurt, c'est si tragique. Parce que mon amour qui provient de lui, je ne le saisis plus expérimentalement. J'espère qu'il continue d'exister, mais je ne peux plus me nourrir actuellement d'une expérience externe de sa bonté. Et par le fait même, l'amour que j'ai pour lui risque de se replier selon un mode intentionnel. Alors je garde le souvenir. Mais vous savez bien, l'amour a horreur du souvenir. Le souvenir, c'est pas l'amour. Alors quand vous voulez consoler quelqu'un par le souvenir, vous l'agacez prodigieusement. Dites-vous bien ça. Vous jetez de l'huile sur le feu. Il vaut mieux se taire. Parce que quelqu'un qui aime est une vulnérabilité extrême. C'est un être qu'on a arraché la peau, vous voyez, hein, chair sur chair. Et c'est très important, cela, de comprendre que le bien en acte, c'est ce qui attire et ce qui a comme fruit l'amour. Et si donc le bien en acte disparaît, l'amour se replie sous une forme d'intentionnalité, c'est-à-dire n'a plus ce même réalisme. Et vous ne pouvez pas, par le souvenir, prouver l'existence de Dieu, parce que Dieu n'est pas dans le souvenir. Dieu n'est ni dans le futur, ni dans le souvenir. Il est dans l'instant présent. Et l'instant présent vécu dans l'amour d'amitié. Et là, je peux tout de suite poser nécessairement cet amour d'amitié. Et tout entier, radicalement, et d'une façon ultime. Il vient d'un être premier. Vous voyez ? Alors, il y a une expérience, il y a un principe métaphysique, et ce principe métaphysique, c'est la causalité finale au niveau de l'esprit, au niveau de ma capacité d'aimer au niveau de mon amour actuel. Et je conclue, il y a donc un amour premier qui est le bien suprême, qui est le bien, qui n'est que bien, qui est, selon l'expression si belle de la liturgie des Pères de l'Église, qui est l'ami des hommes. Je découvre l'ami des hommes. L'ami numéro un. le découvre comme ami des hommes. Il ne peut pas le découvrir autrement. Puisque je le découvre en acte. Comme le bien des hommes. Et c'est pour ça que cette découverte, si je la pense, si je la médite, mais méditer au sens de la pensée au niveau métaphysique, c'est prodigieux. Parce que je vois que je ne peux pas, si je suis intelligent, rester à un niveau de l'amour de l'amitié. L'amour d'amitié a quelque chose de sacré. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui appelle la présence de Dieu. La présence de l'ami. Et quand j'aurai découvert que cet être premier qui est amour, qui est ami des hommes, qu'il est mon créateur, pas seulement mon ami, mais mon créateur, je pourrai l'adorer. Et c'est dans cet amour que je l'adorerai. Mais vous voyez, je ne découvre pas premièrement le Créateur, je découvre l'être premier, je découvre l'amour parfait. Alors, deuxième petite remarque. Votre démarche de ce matin procède-t-elle de la même structure ou est-elle différente? Elle procède de cette structure toute simple, l'expérience la plus parfaite que je peux faire, objective, subjective. Expérience interne, expérience externe. Les deux liés. Elle implique le principe de finalité. Et la découverte se fait, la conclusion se fait immédiatement. Vous voyez, la démonstration a posteriori par les faits, est quelque chose d'extrêmement simple. Vous pouvez avoir, si vous voulez, petite expérience de ça. Aujourd'hui, on met au point son et lumière pour les églises, pour les châteaux de la Loire. Une fois avoir vu un beau château de la Loire sous l'expérience son et lumière. Genoux au son. Alors on montre une partie, puis une autre partie, puis une troisième partie, puis on vous montre tout. Ça le point de vue. Hein. C'est merveilleux, l'analyse, la lumière. Bien, je crois que la démonstration a posteriori, c'est son et lumière. J'ai découvert dans l'analyse de ce qui est le principe de finalité. Ça, je le découvre à partir de l'expérience même de ceci est. Grâce à l'interrogation, il y a une induction. Le principe de finalité au niveau métaphysique est découvert grâce à l'induction. une fois que je passais de ce principe de finalité, parce qu'on possède un principe, on ne possède pas un ami, mais on possède un principe. On est possédé par l'ami, et on possède un principe, et on possède le principe de finalité. Je peux donc en user comme je veux. J'ai cette expérience de l'amour d'amitié. Et je réfléchis cela au niveau du je suis. Et au niveau du je suis de mon ami. J'éclaire cette expérience unique et deux dans le principe de causalité finale. Et l'éclairant par ce principe de causalité finale, je suis obligé, si je veux aller jusqu'au bout de ma découverte, de dépasser l'ami dans mon amour d'amitié et de poser qu'il existe nécessairement un ami premier. Un amour premier. Un bien premier. Évidemment, je peux m'arrêter à l'ami. C'est ce qu'on fait habituellement. Mais quand vous vous arrêtez à l'ami, vous voyez, vous l'aimez, c'est tout. C'est très bien. Et ça donne une joie. Et une très grande joie. Et on peut coopérer ensemble. Mais vous pouvez aussi dire à l'ami, est-ce qu'on ne devrait pas ensemble faire la plus grande des découvertes qu'on peut faire? Après tout, on s'aime. Et il n'y a pas d'autre finalité que cet amour. Mais cet amour d'amitié me saisit dans tout mon être. Oui et non. Cet amour d'amitié ne me saisit pas dans tout mon être, parce que tu es limité, et je le suis. Et donc, tu ne peux pas me suffire totalement, à cause de ta limite. Tu n'en peux rien. Comme moi aussi, je suis limité. Tu n'en peux rien, et je n'en peux rien. Alors, est-ce qu'ensemble, on ne peut pas se dire cet amour d'amitié qui est si grand, est-ce qu'il n'est pas un signal d'alarme pour découvrir celui que toi et moi nous regardons comme l'être premier? Est-ce que cet amour n'est pas dans toute sa structure dépendant d'un autre? Vous voyez, c'est l'émergence de la recherche de la vérité à travers l'amour d'amitié. Et c'est vrai que c'est toujours la recherche de la vérité qui fait découvrir Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Et ce n'est pas l'amour d'amitié comme tel, mais l'amour d'amitié est le métaxu le plus merveilleux pour me mettre en présence de l'être premier. Et ce n'est pas un prolongement de l'amour d'amitié, non. Dieu est trop bon pour que ce soit un prolongement d'amour d'amitié. Parce que si c'était le prolongement d'amour d'amitié, ça tout de suite, mon amour d'amitié serait relativisé. S'il est le prolongement, ça relativiserait mon amour d'amitié. Alors, Dieu supprimerait l'amour d'amitié. Alors j'aurais peur. Et c'est très souvent ce qui arrive. J'ai peur qu'en découvrant qu'au-delà de cet amour d'amitié, il y a Dieu. Et je dirais, mais alors, Dieu est un Dieu jaloux. Selon les traditions religieuses, on dit ça. Dieu est un Dieu jaloux, et donc en le découvrant, il va me prendre mon ami, et je serai seul avec Dieu. Eh bien, ça, c'est sous-jacent. Et c'est ce qui fait qu'on a, à ce moment-là, une peur parce que notre cœur n'est pas assez pur. Parce que notre soif de vérité n'est pas assez grande. Alors on s'arrête. Si on est un tout petit peu conscient de nous-mêmes, on le sait. J'entends les pas de Dieu. Je me cache derrière un arbre. C'est notre vieux père Adam qui dit ça. Et notre vieux père Adam, après le péché, il est tout proche de nous, vous savez. Adam, métaphysiquement, est plus proche de vous que vos propres parents. On n'a jamais cru ça, hein. Là, je vous fais une découverte. Adam est plus proche. Alors, cette réaction d'Adam, qui fait partie des traditions religieuses, je lis ça dans la Bible. Et la Bible est un livre intelligent. Je peux le lire en philosophe, la Bible. Je découvre des quantités de choses, parce que j'essaie d'être intelligent. Tandis que quand je le lis, oui, Lectio Divina, là je lis ça. Et je ne mets pas mon intelligence au service de la parole de Dieu. Je découvre rien du tout. Oh, j'ai entendu ça dans ma jeunesse, oui, oui. Ah oui, c'est déjà dit. Puis j'ai tout de suite une image d'Épinal, qui voit Adam, qui voit le serpent à côté, et qui voit Dieu qui aboutit. Je suis pas intelligent du tout, tandis que si j'essaie de convaincre, mais c'est extraordinaire. J'ai peur de Dieu. Vous comprenez qu'Adam, à partir du péché, n'aime plus Ève dans l'innocence. Ah non. Ève a été source pour lui de désobéissance. Alors, Dieu va venir prendre Ève. Il me l'a donné, il va me la prendre. Et il ferait bien. Comme ça, je ne prêcherai plus. Vous voyez, au plan philosophique, j'essaie de raisonner au plan philosophique et de faire sortir tout ce qui est présent en nous. Métaphysiquement, je sais bien que tout ça est présent. C'est pas lointain du tout. On a peur que Dieu rétablisse l'ordre. Le péché est un désordre. Ève m'y donnait pour aimer. Et voilà qu'Ève me conduit à la désobéissance. Alors j'ai peur. Je ne peux pas découvrir Dieu par la désobéissance. Je me cache de Dieu. Et j'ai peur de Dieu. Tandis que l'amour me conduit à Dieu. Mais en découvrant l'amour, en vivant de l'amour, je n'ai pas encore découvert Dieu. Je ne dis pas à mon ami, tu es mon Dieu. Ah non. Il y aurait là, hein, le don de science qui dirait ce don magnifique de Dieu, tu en fais ton idole. Ève n'est pas Dieu pour Adam. Et c'est peut-être à cause de ça que Dieu a permis le péché. Pour éviter qu'Ève soit l'idole d'Adam. Elle était si charmante. Si merveilleuse. Elle avait de ses yeux. Très bien, imaginativement, tout ce que vous pouvez rêver d'Ève. Quand vous n'avez pas de photo. C'est extraordinaire de voir, vous savez, c'est d'une finesse, les 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est la grande théologie du péché. Qui nous donne des choses très étonnantes, et très belles, et très fortes, que le philosophe aime, parce qu'il découvre des tas de choses. Cette peur de Dieu, elle est sous-jacente. dit que je n'ai pas peur de mon ami. Mon ami, c'est moi. C'est mon prolongement, c'est moi. Et ce n'est pas moi. C'est moi par l'amour, ce n'est pas moi en tant qu'il existe. Donc les deux, le point de vue de l'amour intellectuellement, l'ami énergayant, ces deux mots qu'Aristote nous donne pour comprendre ce que c'est que la fin. C'est merveilleux, hein? Il a inventé un mot, entelekeia, ça n'existe pas en grec. Et ça veut dire en, telos, energeia, l'ayance dans la fin. Le petit chat qui ronronne auprès du feu, l'ayance dans la fin. Il ronronne, c'est extraordinaire. On est bien dans sa fin. On est. Votre démarche ce matin procède-t-elle de la même structure ou est-elle différente? Donc, je vous l'ai donné. Quelle place à la saisie de la limite par rapport à une voie par le désir? Je vous l'ai dit. Le désir reste intentionnel et là, je touche toujours.